bonjour à tous. Désolé de ce message un peu tardif sur une émission de Lost que je viens de découvrir, ayant connu le podcast tardivement. Donc voilà, moi aussi, c'est une série qui m'a énormément déçu, car effectivement, même s'il a su être prenant dans les débuts, on a vraiment eu le sentiment que les scénaristes ne savaient pas où aller. Donc toujours cette excitation en fin d'épisode qui me donnait envie d'en savoir plus, et surtout la certitude que j'allais avoir un dénouement l'épisode d'après. Mais malheureusement, une quasi-déception à chaque épisode qui suivait, donc j'ai vraiment eu le sentiment d'être plus que perdu, pris en otage.
Salut Blockbuster, au risque de rajouter à l'hégémonie, la suprématie et la domination mondiale qui est en train de constituer Disney, je me permets quelques petits conseils. Par exemple, on a Marvel's Runaways qui passe sur Hulu, qui est produit par Stephen Savage, Josh Schwartz de Gossip Girl, entre autres, et de vie aussi, donc qui est vraiment basé sur l'adolescence. Idem pour Marvel's The Cloak and Dagger, qui passe, il me semble, sur Freeform. Également Marvel's Legion. Voilà, c'était mes petits conseils. Bisous, ciao.
Frédéric, j'ai écouté ton émission hier, mais c'est quoi cet accent anglais? On dit pas Marvel, on dit Marvel. On est quand même en France, hein?
Bonjour, c'est pour vous dire qu'à cause de vous, j'ai été obligée de regarder la saison 2 de Stranger Things, ce que je voulais pas faire à la base parce que j'avais binge-watché la saison 1, ça m'avait pris 16 heures de ma vie en très peu de temps, et là du coup, bah, à cause de vous, j'ai dû faire la même chose avec la saison 2, et là j'enchaîne sur la saison 3. Donc merci, mais merci beaucoup pour vos émissions, à bientôt.
To be or not to be, not to be.
C'est l'histoire d'un individu que l'on appellera Robert pour préserver son anonymat. Depuis quelques années, Robert est très en colère. Il trouve que les médias en font trop sur le féminisme, qu'ils en font trop sur la diversité, et que l'écologie n'est pas loin de devenir une dictature. Il en est sûr et n'est pas le seul à le penser. Pascal Praud l'a encore dit ce matin à la télé. Robert n'en peut plus de cette époque où on ne peut plus rien dire, où l'homme blanc est systématiquement accusé de tous les maux. Jusqu'à hier, Robert pensait que ça ne pouvait pas être pire. Jusqu'à ce qu'il tombe sur ce tweet, annonçant que le nouveau 007 serait une femme. Noire qui plus est, Lashana Lynch. Aussitôt, Robert écrit un article sur son blog, c'était mieux avant.com, pour expliquer pourquoi James Bond ne peut décidément pas être une femme. Dans la section commentaires, des tas d'internautes partagent l'avis de Robert sur le sujet. On dénonce ce politiquement correct que l'on essaie de faire entrer au pied de biche dans nos rapports humains. En une journée, Robert parle 852 fois de James Bond sur les réseaux sociaux. Il est même repris dans la presse généraliste. Certains journaux titrent « Des fans en colère à l'annonce d'une 007 noire ». La production du film doit même se justifier et déclarer que James Bond reste James Bond. Seul le matricule de 007 sera attribué à Lashana Lynch. Robert est satisfait. Il est convaincu d'avoir remporté une victoire. Les producteurs aussi sont satisfaits. Car grâce à Robert et ses amis, leur prochain James Bond a bénéficié d'une publicité qu'aucun budget n'aurait jamais pu payer. Robert s'endort paisiblement, sans savoir qu'il est devenu l'homme sandwich de ce qu'il déteste.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
You sexy motherfucker.
We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker.
Come here, baby.
Sexy motherfucker.
Autodidacte, visionnaire, génie, autant d'hyperboles qu'on utilise souvent trop hâtivement pour qualifier des artistes. Pourtant, en ce qui concerne le chanteur Prince, tout est vrai. Artiste complet, inclassable, capable à lui tout seul d'enregistrer un album en assurant tous les postes, Prince a révolutionné la musique pop tout en revendiquant une indépendance qu'il n'a jamais quittée. Mais qui était vraiment celui que l'on nommait le Kid de Minneapolis? Pour donner des éléments de réponse à cette question, j'ai avec moi Jeanne Adède. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes artiste de la nouvelle scène française, autrice, compositrice et interprète. Vous avez sorti votre deuxième album Radiate en septembre dernier. Et vous êtes une grande fan de Prince depuis l'adolescence.
Oui, c'est vrai.
Avec nous également Alexis Tain. bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de Prince, pour lequel vous avez d'ailleurs rédigé une biographie. Cela s'appelle Prince, le signe noir, et c'est paru aux éditions de La Découverte.
Exactement.
Enfin avec nous, Raphaël Melki. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes fan de Prince, auteur du livre Purple Fame, histoire d'une addiction à Prince, paru aux éditions Renaissance du livre, et administrateur du fan site francophone Shkopi, c'est comme ça qu'on dit ?
Exactement.
Voilà, qui est dédié à Prince, bien évidemment. Ensemble, on reviendra sur le parcours de cet artiste atypique, de sa naissance à son décès le 21 avril 2016 à Minneapolis. On essaiera d'appréhender le génie musical de Prince, on évoquera ses influences, son perfectionnisme, ses multiples réinventions, ses concerts qui tenaient autant de l'happening que de la performance scénique. Prince fut l'un des premiers artistes à utiliser Internet pour promouvoir sa musique, préfigurant la figure de l'artiste ultime et indépendant. En une heure, je vous le dis tout de suite, on n'aura sûrement pas le temps de tout dire sur Prince, mais c'est plus de temps qu'il n'en faut pour se rendre compte de la trace qu'il a laissée dans la musique du XXe siècle. Prince dans Blockbuster, c'est parti. Première question. Qui est Prince ?
Prince. Prince, c'est son vrai nom, vrai prénom, puisqu'il s'appelle Prince Roger Nelson. Il est né le 7 juin 1958 à Minneapolis. Il y grandit dans une famille très compliquée. Son père, son papa et sa maman se séparent assez rapidement. Il est un peu ballotté dans sa famille, entre belle famille, son père, sa mère, etc. Rien ne va véritablement. Jusqu'à finalement ce qu'il emménage chez la maman dans la famille d'un de son meilleur copain d'école qui s'appelle André Simon, à l'époque André Anderson. Et donc il est pris comme ça sous la cape de cette mère de famille qui a déjà 5 ou 6 enfants dans sa maison. Et il devient part entière de cette famille et c'est là qu'il va... Répéter dans le basement avec toute cette famille de musiciens et ses copains d'école qui vont venir répéter avec lui et il va s'exercer à apprendre tous les instruments. Voilà.
Et alors sur cette enfance, justement, son père était musicien, Raphaël Melki, si je n'abuse.
Oui, il était musicien, il était pianiste d'un trio de jazz, mais qui n'a jamais vraiment été illustre. Mais oui, il y avait un piano à la maison et le père était une des premières influences.
D'ailleurs, il a été appelé Prince parce que c'était le nom du groupe de son père.
Exactement.
Et alors, j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est vérifié ou non, mais que le père était extrêmement volage, qu'il avait plusieurs foyers, dirons-nous, et que quand il est parti à 7 ans, qu'il a laissé Prince avec sa mère, lui, on n'était pas forcément heureux, d'autant qu'il y a eu un beau-père qui est arrivé et que Prince n'aimait pas du tout.
Exactement, comme vient de le dire Alexis... Prince se sauve, enfin il est chassé, il part assez vite de ce foyer pour se retrouver donc chez André Simon, qui est pas une rencontre anodine, qui est un moment assez important. Ils créent ensemble les premiers groupes, il sera le bassiste des premières formations, et donc c'est vraiment la naissance de Prince, c'est presque plus au sein de ce basement que réellement dans le noyau familial qui ne l'a pas épargné quand même, qui a été assez douloureux.
Et est-ce que c'est à cette époque qu'il commence à apprendre à maîtriser autant d'instruments? Parce qu'il joue d'énormément d'instruments.
Oui, alors on annonce 27, mais c'est toujours difficile à comptabiliser. En gros, il joue tout. L'idée, c'est qu'il joue tout en dehors des cuivres. Et encore, on apprend encore, par moment que c'est lui sur un bout de sax dans un morceau ou quoi. Donc en fait, on s'en sort jamais. Il y a des nouvelles anecdotes qui tombent de lui en face d'une harpe et qui essaye des choses et qui arrive à sortir une mélodie intéressante. Mais oui, il joue de tout et c'est à cette époque qu'il s'essaye à tous les instruments.
Et quand je le qualifie de génie, ça... Est-ce que c'est approprié?
Allons. Pensez-vous que je vais vous contredire?
Justement, on vous pose la question.
Je sais pas, je trouve ce mot tellement galvaudé qu'il est presque en dessous de la réalité. Oui, non, oui, on a affaire à un génie, mais alors c'est délicat cette question, parce que vous recevez des passionnés, et donc est-ce que lorsqu'on répète que c'est un génie, on va nous prendre très au sérieux? Mais oui, oui, je le pense très clairement qu'on a affaire à un génie à tous les niveaux. Votre introduction est parfaite, c'est-à-dire que ce soit sur ses capacités à tout faire sur un disque, la taille de sa discographie et sa productivité qui est invraisemblable, la manière dont il avait de gérer les concerts, et vous l'avez dit, on est presque au niveau du happening, ce sont des faits que tout le monde peut vérifier.
Ce qui est fou, c'est que dans cette carrière incroyable, c'est sa maison de disques qui l'a freiné à un moment donné, parce qu'il sortait trop de titres, trop d'albums.
Ouais, tout à fait, il sort trop. C'est-à-dire que si vous voulez, pour résumer Prince rapidement, c'est 40 ans de carrière, 40 albums. On peut pinailler un peu, mais c'est ça. Et comme c'était pas suffisant, il produisait énormément d'artistes en parallèle, et puis comme il avait toujours trop de titres à l'époque où on sortait des 45 tours, la phase B était inédite, et puis après, quand Internet est arrivé, ça lui a permis de diffuser encore plus de musique. Donc oui, il y avait une productivité qui était colossale, et donc on parlera peu sûrement de l'héritage à un moment donné, mais oui, il a laissé de la musique pour très longtemps.
Jeanne Haddad, je disais que durant votre adolescence, Prince a vraiment été un compagnon hyper important pour vous.
Ouais, puis un compagnon que j'ai pas du tout partagé. Personne n'écoutait Prince là où j'ai grandi. Mais effectivement, que j'imagine comme mes comparses ici. Moi, j'ai une relation hyper intime avec sa musique, avec ce mec-là, sans l'avoir jamais rencontré. Et c'est assez dingue la musique, l'effet que ça peut avoir à ce niveau-là. Ouais.
Et qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit? Parce qu'il y a énormément de chanteurs avec beaucoup de talent. Qu'est-ce qui a singularisé Prince par rapport aux autres?
J'essaie toujours de me l'expliquer. Ça reste encore mystérieux. Je pense qu'il y a un mix de cette excellence, de cet être qui est sexué mais pas genré, à un moment de l'adolescence où ces questions-là sont un peu complexes, donc une présentation de ça, peut-être de la sexualité aussi de manière un peu accessible, on va dire, mais comme plein d'autres stars qui ont touché les ados comme ça, David Bowie en est un bon exemple, par exemple. Donc voilà, donc je me l'explique toujours pas complètement, mais...
On a encore un peu de temps pour étudier tout ça. On va continuer de parler de Prince, mais pour le moment, on l'écoute avec Cream. Cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Cassolo ont préparé cette émission, aidée par Aurore Mansip, et à la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot et Élise Christophe.
Just stop.
C'était Cream ou Cream pour le sale gosse qui, voilà, qui se plaint de mon accent en début d'émission, par Prince dans Blockbuster sur France Inter. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez durant tout cet été nous laisser des messages au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Prince. Nous sommes toujours avec la chanteuse Jeanne Adède, le journaliste Alexis Tain et l'auteur Raphaël Melki pour parler de Prince. Alors j'aimerais qu'on retourne un petit peu au début, les deux premiers albums de Prince, il les a composés sous la férule de Warner et il les a composés quasiment tout seul.
C'est oui, non, en fait, il signe en 1977 un contrat avec Warner qui est le deuxième meilleur contrat, en tout cas le plus doté pour un jeune artiste. Et à partir de là, il demande en fait d'avoir un maximum de liberté dans la réalisation de ses disques, y compris du point de vue de la production, c'est-à-dire qu'il cherche dès le départ à être absolument seul dans la conduite de son disque, c'est-à-dire de pouvoir jouer tous les instruments, de pouvoir donc produire, c'est-à-dire définir le son, l'esthétique de sa musique. Alors sur le premier album, on lui adjoint droit à un coproducteur, c'est la seule concession qu'il fait, mais par la suite, cette expérience ne sera pas renouvelée, et dès le départ, il va vraiment tout faire. Et c'est ce qui explique que sur les disques de Prince, dans tout le long des années 80, on a produced, composed, arranged by Prince. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on entend sur le disque, c'est lui qui le joue. Voilà. À part quelques chœurs et effectivement les parties de sax. Et ça, on ne mesure pas forcément parce qu'aujourd'hui, on fait plus trop attention à ça, mais c'était quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que chaque note qu'on entend dans un morceau de Prince, et c'est ce qui fait que cette esthétique si distincte est reconnaissable à la première seconde quasiment, tout est fait par Prince, c'est phénoménal.
Est-ce que c'était un manque de confiance peut-être dans un système ou dans le fait de collaborer? En plus, dans le futur, on a vu qu'il a commencé à avoir des formations musicales de plus en plus importantes autour, ouais, de lui. Ou est-ce que c'était vraiment dans une sorte de perfectionnisme où il voulait maîtriser absolument tous les aspects de son œuvre?
Je pense qu'il y a cette dimension perfectionniste. On a parlé de son enfance. Il faut voir que Prince est quelqu'un qui a une revanche à prendre sur le monde entier. Il est seul contre le monde. Et ça le détermine dès le plus jeune âge, donc dans ses frictions familiales, etc. Et il n'aura de cesse, parce que c'est aussi le bain dans lequel il est à Minneapolis, avec tous ses groupes rivaux, il naît dans cette rivalité permanente. Et donc, il est seul contre le monde. Et toute sa carrière, en fait, c'est un type qui mène sa barque envers et contre tout, contre le business, contre tout. Voilà. Dans les années 80, il fait tout seul en studio, effectivement. C'est le Prince expérimenteur. Expérimenteur, c'est intéressant, un lapsus. Et dans les années 90, il s'adjoint à un groupe qui est un groupe extraordinaire avec Michael B à la batterie, Sonity à la basse, et qui va être une espèce de force de frappe monumentale. Et il passe de la musique, on va dire, du laborotin de studio à une forme beaucoup plus ouverte, beaucoup plus live de sa musique, qui est tout aussi passionnante. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble. Bon, après, il y aura un petit peu des chutes et des remontées, etc. Et finalement, à partir de, on va dire, de 90, Prince devient un homme de live. Au sens où il investit sur investit jusqu'au dans les dernières années, où je, en tout cas c'est mon point de vue, il me semble que les dernières tournées 2011-2013, enfin c'est discutable, les formations, etc. Mais enfin, ça reste quand même passionnant. C'est passionnant, il y a des after shows qui sont incroyables, il se lâche. Enfin, c'est finalement, Prince se bonifie presque avec le temps d'une certaine manière.
Et alors, paradoxalement, c'est aussi un des moments où on en entend un petit peu moins parler parce que il est moins médiatisé. C'est des concerts surprises. Il faut vraiment être un initié pour pouvoir assister à un de ses spectacles, un de ses shows, Raphaël Balky.
Oui, il est moins médiatisé parce qu'il part en croisade, en fait. C'est-à-dire qu'il rompt avec sa maison de disques, et donc nécessairement, la maison de disques n'apporte pas qu'un confort d'enregistrement, c'est aussi une force de promotion. Et à partir du moment où il n'y a plus personne pour envoyer des communiqués de presse et un peu mâcher le travail de certains médias, sans aucune critique, il est moins médiatisé. On le voit moins. Il sort des choses par le biais de ses magasins qu'il ouvre et puis ensuite par le biais d'Internet. Il y a le fameux changement de nom, qui est quelque chose d'assez remarquable et qui est assez mal compris, en fait. On pense à un caprice de star, alors qu'en fait, c'est plus une histoire...
Oui, je précise, c'est-à-dire c'est l'époque où il a cessé de se faire appeler Prince.
Et remplacé par un symbole.
Voilà, par Love Symbol.
Il a fallu donner un nom au symbole qui était Love Symbol, mais en fait, l'idée était, puisque Warner possédait son nom, il allait s'appeler par quelque chose d'imprononçable. Ce qui posait des problèmes contractuels, évidemment. Donc c'était un très bon pied de nez au fait qu'il s'entende dire au moment de récupérer ses masters, non, tes masters nous appartiennent et ton nom aussi. Et donc à partir de là, effectivement, il est moins médiatisé et en même temps, il fait des passages télé invraisemblables dans le monde entier, que ce soit Canal+, en France, avec un happening de dingue qu'on peut trouver sur Internet, ou chez Jay Leno, David Letterman, où chacun de ces passages télé, peu importe l'actualité musicale, reste un événement.
Avec le mot esclave écrit sur la joue.
Parfois le mot esclave écrit sur la joue, justement pour clamer le fait qu'ils veulent récupérer ses masters. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, comme c'est très 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 innovant, on pense à un caprice de star, une histoire de diva ou autre, alors qu'en fait, beaucoup d'artistes ensuite ont cherché à récupérer leur master, tout comme la diffusion de musique sur Internet, qu'il a fait bien avant les Spotify, les Deezer et autres, où on a pensé que c'était encore une fois la folie des grandeurs, à une époque où Internet était assez peu popularisé et répandu, et alors qu'en fait il avait déjà une réflexion sur la manière dont on allait vendre la musique dans les années à venir, et il avait raison quand on voit aujourd'hui à quel point c'est une question centrale.
Et ce qui est fou, c'est qu'à partir du moment où d'autres artistes ont commencé à prendre ce chemin de l'Internet, lui s'en est retiré en disant maintenant c'est passé, c'est has-been, avec iTunes, Spotify, etc. Ils vont vouloir avoir les droits, ils ne versent pas d'avance, je vais retourner à une autre manière de produire mes CD et communiquer autour de
tout ça. Tout ça est lié à sa manière d'être, c'est-à-dire que les idées chez Prince vont très vite, et quand il faut changer d'idée, il se pose pas de questions si c'est trop tôt ou trop tard. Donc il décide, quand il voit l'arrivée d'Internet, de monter un moyen de pouvoir enfin diffuser sa musique, et quand il se rend compte que ça prend pas, il se pose pas la question de savoir pourquoi ça prend pas. Est-ce que c'est une histoire économique? Est-ce que c'est une histoire d'équipement? C'est pas le problème. Il passe à autre chose. Et à un moment donné, quand YouTube commence à prendre une telle importance sur la consommation de la musique, soit par le biais de clips, soit juste par la diffusion de sons, il voit ce qui peut y avoir comme rétribution, et il considère que non, il va pas donner sa musique. Et donc, effectivement,
il se retire. Tout enlevé.
Et il a tout enlevé.
Vous pouvez trouver plus aucune vidéo sur YouTube à l'époque. Ouais.
Alors, je suis entouré par des experts, mais la question qui me taraude, c'est le sont-ils vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues concernant Prince. Des questions qui vont faire dire à tout le monde « Oh, je ne regrette pas de payer ma redevance pour entendre ce genre de choses ». Saurez-vous y répondre ? L'Angleterre a eu Queen, les États-Unis ont eu le King et Prince. Vous pensez que c'est à cause de la Révolution française que la monarchie a arrêté de chanter chez nous ?
Waouh. Pas facile de répondre.
Enfin, en tout cas, moi, je vois pas d'autres raisons à ça.
Bah, c'est ça. Ce que j'ai cherché, il y a Princesse Erika.
C'est ça.
Voilà. On a peut-être Marco Prince, mais ça marche pas. C'est vraiment ça. Mais sinon, c'est non.
Nolwenn le roi.
J'aime bien la phrase de John Lennon qui dit que le rock en France, c'est comme le vin anglais.
Prince a longtemps mis sa sexualité en avant dans ses textes parce que ça mettait les États-Unis mal à l'aise. S'il était encore en vie, vous croyez qu'il ferait des textes sur le réchauffement climatique ?
Je pense qu'il en a fait. Ouais, je me demande si dans Sign of the Times, il n'y a pas déjà une ligne qui est où il parle de ça dans Sign of the Times.
Vous voyez, c'est la grande leçon. Une question 87, bête peut toujours aboutir à une réponse intelligente, Alexis Thain. C'est important de le savoir.
Vous confirmez ?
Oui, je confirme. Je confirme. Prince faisait souvent des concerts de 2 heures, suivis, on l'a dit, d'after-show de 4 à 5 heures dans les petites salles ou des brasseries. Mais finalement, Prince, si tu voulais le voir, il valait mieux l'attendre au restaurant.
Exactement.
Et moi, je l'ai vu dans un restaurant.
Exactement.
Je l'ai vu jouer du piano à 4 heures du matin à la société. On était 8. À 4 heures du matin, il est parti, il s'est levé et il s'est mis au piano. Il a joué. Il a joué 10 minutes pour remercier les serveurs.
Mais c'était une attitude fréquente. Hein. Beaucoup de personnes qui suivaient Prince, quand il y avait une idée d'after show, n'allaient plus au concert et faisaient la queue pendant le concert à l'entrée du club potentiel ou de la brasserie.
J'ai une pensée émue pour les gens qui squattaient devant les concerts en attendant des heures et des heures, alors qu'en fait, il fallait juste dans le resto d'en face. Ouais. Merci à vous. Là, je vous propose d'écouter Loud dans un autre genre avec Fallait y aller.
Désolé mais pas désolé, cette fois-là il fallait y aller. Vaut mieux être soi-même que d'être mal accompagné. La médecine fait des miracles, ma tenue peut en témoigner. Hier elle était malade, demain elle sera soignée. Que tu sois doué, oh yeah. Yippie-kaye, je quitte le foyer, je tape le douanier. On s'envole pour faire le vide, on atterrit pour ravitailler. Kinda like a big deal, feeling like Kanye. Le Québec sur les épaules, puis une Suisse sur le poignet, oh yeah. Des plaques plein le corridor, mais parle-moi pas d'or. Only God or can judge me dog. Le salaire minimum, à minimum, 100 000. Salaire que tout ce money talk était prémonitoire. Quand tu bouges comme on bouge, t'sais, c'est facile d'oublier. Il est supposé d'être sur scène, ils savent même pas où il est. Une heure de retard, maybe more, no less. Mais quand je consulte la Rolex, me trouve fashionably late. Oh yeah. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. Ils ont fait rentrer les mados, sortir les bados. Donc mon attitude dans le club est optimiste. Ils voudraient qu'on arrête notre cinéma, mais de mémoire, nous on connaît pas nos limites. On connaît juste nos limites. Rockefeller murdering. On travaille à s'en rendre malade, ensuite on meurt de rire. Haha, c'est le kid qui perce l'écran, mais qui reste derrière son mur de fit. Guess you might have heard of him. Oh, j'ai trouvé la perle rare. On part vers la mer Azur, c'est sûr qu'on perd le nord. Rien d'autre que du linge de rechange dans une vallée Saint-Laurent. She's the good kind of bad, so right, she kind of wrong. On a brisé le système. Siskep, get busy en visite dans le 18e. J'me balade de Panama, Manhattan en un week-end. Tout pour faire l'americano. Yes, we can. I waited all my life, cette fois-là, il fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là, il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là, il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là, il fallait y aller. Yippie-kaye, je quitte le foyer, je tape le douanier, on s'envole. Yippie-kaye, je yippie-kaye, yippie-kaye, je quitte le foyer, yippie-yippie-kaye, yippie-kaye, yippie-yippie-yippie-yippie-kaye, yippie-kaye, je quitte le foyer, je tape le douanier, on s'envole pour faire le vide, on atterrit pour ravitailler. S'envole pour faire le vide, on atterrit pour ravitailler. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. On s'envole pour faire le vide, on atterrit pour ravitailler. I waited all my life, cette fois-là, il fallait y aller. On s'envole pour faire le vide, on atterrit pour ravitailler.
C'était l'autre qui interprétait Fallait y aller.
Blockbuster. Frédéric Sigrist. sur France Inter.
I never meant to call you when you found wrong. I never meant to call you when you came. I'm the one who wants that night to see laughing.
Purple Rain de Prince. Alexitain, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de l'album Purple Rain et du film Purple Rain ?
On retrouve les premières traces de Purple Rain lors de la tournée 82-83, 1990, enfin c'est la tournée 1999 de l'album 1999, puisqu'il y a un premier script en fait qui tourne un peu dans les loges. Prince a embauché un jeune scénariste qui s'appelle William Blinn à l'époque, qui ne durera pas. Et donc il a ce projet d'un film relativement autobiographique qui à la fois parle de son rapport, on va dire, avec sa famille, son père et sa mère, et à la fois parle de son berceau d'enfance, puisque de la rivalité qu'il avait avec tous ses groupes de jeunesse, dans le fameux Basement dont on parlait avant. Et donc il développe un peu ce projet-là. Alors il y a déjà des tentatives en fait cinématographiques, puisqu'il y a un premier film qui a été réalisé pendant la tournée encore précédente Controversy. Donc il tâtonne autour du cinéma, de la chose filmée. Et puis là, il s'entoure, donc il va voir Warner, il demande des financements. Et puis Warner lui accorde une partie de ce financement. Bon, il y a plein de choses qui jouent en coulisses, évidemment. Le film peut se faire. Et à ce moment-là, bah, il y a les séances de répétition qui ont lieu à Minneapolis. Donc le groupe, les musiciens prennent des cours de d'acting. La chose se monte, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Prince, dès le début, en fait, a une pleine conscience du succès à venir, en fait, de ce projet-là. Et il en est persuadé, à tel point qu'il insuffle une espèce d'enthousiasme et de dynamique auprès de tous les gens avec qui sont sur le plateau. Et c'est une espèce comme ça de révolution qui est en marche. C'est le nom d'ailleurs du groupe, The Revolution. Et il ne doute pas une seconde de ce succès-là. En parallèle, il enregistre des titres. C'est la première fois qu'il reste autant de temps en studio à peaufiner des titres, puisque Prince est un spontané, c'est-à-dire qu'il privilégie le premier jet. Mais là, on voit dans les séances d'enregistrement de cette époque-là, 83-84, qu'il revient sur des morceaux, peut-être même une semaine durant. C'est-à-dire qu'il passe des nuits entières à peaufiner ces morceaux-là. On aura pour la plupart des versions courtes, souvent des morceaux parfois extended qui ont vu le jour, et dont Purple Rain. Et il prend le parti en fait d'aller jouer sur scène une partie de son album, et c'est ce fameux concert en août 1983 au First Avenue, qui est un peu son Olympia, on va dire, à Minneapolis. Et donc là, il arrive avec ses nouveaux morceaux, ses nouveaux titres, et trois de ces nouveaux titres, dont Purple Rain, figureront après quelques retouches sur l'album. C'est-à-dire que ce qu'on entend sur le disque Purple Rain, ce sont des titres joués en live, en tout cas pour trois d'entre eux, dont le fameux Purple Rain, dont on peut voir sur YouTube partout la version longue.
Alors Prince était un artiste prolifique, on l'a dit, hein, mais la quantité n'est pas forcément synonyme de qualité, et il y a des albums de Prince que certains n'aiment pas, mais alors pas du tout.
Ce disque est, moi je trouve, épuisant.
Ça paraît interminable, mais il fait que 38 minutes pourtant.
Il est fatigant.
Et même un petit peu fatigant.
C'est un empilement de virtuosité qui m'épuise. Et celui-là, il est particulièrement hystérique et fatigant. Je trouve qu'il y a un côté très forcé, on sent qu'il essaie. D'ailleurs, il y a plein d'autocitations, de carrément de...
Oui, il y a des reprises.
Il reprend même un morceau des deux albums sortis l'année dernière, qui quand même ont fait pchit. Chaque fois, ils essaient de créer l'événement, et je pense que c'est son problème.
Des concerts ratés, dont j'ai le souvenir aussi. Des concerts non faits, dont j'ai le souvenir également. moment où j'ai attendu, par exemple, une fois au Zénith, j'ai attendu jusqu'à minuit, il y avait toutes les filles qui jouaient avec lui, là, qui faisaient un tunnel de R&B insupportable. Je suis partie, il paraît qu'il a donné le meilleur concert de toute sa carrière, mais enfin, j'étais déjà plus là.
Honnêtement, moi, je trouve que depuis Sign of the Times, il n'y a pas un disque sur lequel je me suis arrêté. De temps en temps, on entend un morceau. J'ai vu des concerts, parfois bien, parfois exceptionnels. Souvent, c'est ceux où on a eu le privilège de le voir à 4 heures du matin parce qu'on a été tuyauté. D'autres fois, effectivement, on a une espèce de tunnel de jazz rock, tout ce qu'on aurait fui si on avait payé la place. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime
pas. Raphaël Balky, je vous vois réagir.
Mais qui sont ces gens?
Alors justement, c'est vrai qu'il a produit énormément, et la question qui se pose, elle m'a été posée également sur Internet, est-ce qu'il ne produisait pas trop?
En fait, il y a deux lectures. Il y a la lecture avant 2016, c'est-à-dire avant la date de son décès, et la lecture ensuite. C'est-à-dire qu'on a été vraiment des enfants gâtés. On avait de la musique tout le temps. Sans même se rendre compte si d'autres artistes produisaient de la même manière, si d'autres fans, entre guillemets, avaient la même chance que nous. Et donc, il y a eu un moment, on est passé d'un artiste où on dégustait les disques. C'est-à-dire que dans toutes les années 80, c'est-à-dire la période de l'âge d'or, c'est des disques qu'on a usés, mais vraiment dans tous les sens du terme. On les a écoutés, surécoutés. Et puis, il y a un moment, avec toute cette déferlante de musique, officielle et puis pour beaucoup d'entre nous, non officielle, parce qu'il faut savoir que Prince est un artiste qui était excessivement piraté. Ses albums tombaient dans les...
Il y a notamment tout un album.
Il y a des centaines de titres qui ont été piratés, effectivement. Il y a eu le Black Album, qui est le plus connu des albums piratés. Mais en fait, c'est un artiste qui a été excessivement piraté. Et on avait aussi la chance de le voir souvent en France, dans des concerts, souvent très bons. Et donc, on était très gâtés, en fait. On avait énormément de musique. Il y a des albums, effectivement, qu'on écoutait d'une oreille en se disant, oui, c'est de la redite, il l'a déjà refait ou autre. Mais il y avait de toute façon toujours des pépites, et je souhaite à bon nombre d'artistes d'avoir des titres aussi bons que la pépite, peut-être, qu'on pouvait trouver sur un disque moyen. Est-ce qu'il a trop produit? Je ne sais pas. Moi, je suis déjà terriblement en manque, donc je doute qu'il ait trop produit. Mais on a été gâtés, et parfois on ne prêtait pas attention à cette musique. Et pourquoi je dis, et je m'arrête là, après 2016, qu'après 2016, on est retourné sur des disques qu'on avait peut-être un peu écoutés trop rapidement, en se rendant compte qu'on aurait peut-être dû s'y attarder un peu plus.
Jeanne Haddad. Un avis, est-ce qu'on produit trop quand on
non,
est artiste?
Non, bah, non, ça c'est une, c'est, enfin, qu'est-ce qui, what the fuck, quoi. Le mec, il fait ce qu'il veut.
Que ça sorte.
Non, mais sérieusement, c'est-à-dire que s'il a ça à dire, s'il a besoin de s'exprimer, il le fait. Il y a des gens qui écoutent, si ça les intéresse moins, ils t'écoutent pas, et puis le gars, il continue, et puis la question se pose même pas, en fait. Et peut-être, effectivement, ça fait que, des fois, c'est, il y a des choses qui sont un peu diluées, mais je vois pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est une des forces immenses de ce gars-là, c'est de ne pas se poser la question du business, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a envie de faire, et c'est tellement inspirant parce que les questions du business, il y a rien de pire pour arrêter de faire de la musique, en fait, dans la vie. Donc le gars, il continue à faire de la musique et à faire ce qu'il entend faire, et on suit ou on suit pas. Finalement, j'ai l'impression que c'était il était toujours capable de rattraper les gens à la volée, en fait, tellement il était bon. Donc, en fait, même s'il nous perdait sur quelques années, il nous rattrapait juste après. Donc,
Mais j'ai l'impression, justement, que c'est cette liberté qu'on lui a un petit peu reprochée. C'est-à-dire, même dans la manière qu'il avait de répondre aux interviews, il n'y avait pas d'enregistrement, et il demandait aux gens de prendre des notes. Et même, des fois, les journalistes qui étaient un petit peu trop scolaires, qui commençaient à sortir leur carnet ou tout ça, à écrire, ils disent « Non, 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 écoute, laisse-toi gagner par l'ambiance. » Il y avait quelque chose de très...
Ça, c'est ce qu'il faisait même en concert. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs que les concerts étaient, de tous ceux qui l'ont vu maintes et maintes fois, et je sais que mes deux comparses aujourd'hui, elles l'ont vu bien, bien plus souvent que moi, mais ça me semble évident. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était impératif dans le fait que tu sois là. En tant qu'auditeur, en tant qu'intervieweur, en tant que personne, c'est-à-dire que présent au monde et à ce qui se passe. Donc effectivement, parce que lui, il était tellement sans doute, du coup, c'est ça qu'il demandait aux autres en face. Et en tant qu'auditeur, forcément, ça change notre façon d'écouter, notre façon d'être là et de participer au concert. Et forcément, on vit pas la même chose. Et forcément, quand quelqu'un comme ça s'en va, eh ben il y a plus les gens qui font ça en face de nous et qui nous stimulent et qui nous demandent d'être là comme ça, et ça crée un grand vide. Ouais.
Et il y a un élément, alors je sais pas si c'est vrai ou faux, vous allez peut-être me confirmer ou m'affirmer ça, mais il y aurait une session d'enregistrement personnel qu'il aurait fait avec Miles Davis. C'est-à-dire qu'il existe comme ça, il existerait des enregistrements des deux en train de faire des buffs.
C'est très controversé, c'est plus compliqué. Les deux en studio au même moment, non. Est-ce qu'il y a des titres de Prince où on entend Miles Davis? Oui. Ça s'est fait à distance. Enfin, des titres, il y en a même un certifié. Après, est-ce que Miles Davis a joué des compositions de Prince sur scène? Oui. Mais c'est ça. En fait, c'était deux artistes qui se regardaient, qui se respectaient. Il y a eu une rencontre à table. Ouais. Pas dans une brasserie.
Vous êtes tellement renseignés, les mecs, c'est dingo.
En studio, tous les deux. Mais si c'était renseigné, on leur aurait apporté à France Inter. Ils ont même pas demandé, au lieu de parler de rumeurs.
Non, ceci dit, Prince a... Pardon. Prince a prétendu effectivement qu'il y avait des bandes avec Miles Davis.
Oui. Oui, donc c'est lui qui l'a dit.
Ah, c'est lui qui a
répondu. Donc peut-être Prince Gromito, je sais pas, on sait pas. Alors on a parlé du fait qu'il a dû se construire envers et contre le monde, mais même après, on l'a souvent opposé à Michael Jackson dans une sorte de concurrence qui a l'air un petit peu factice, parce que lui avait l'air d'être très admiratif de Michael et vice-versa.
Oui, la concurrence Prince-Michael, elle est construite, elle est d'abord médiatique. Elle est médiatique et elle fonctionne. En France, on découvre Prince parce qu'il est présenté comme le concurrent de Michael Jackson. Donc ça fonctionne. Après, il y a un moment où il n'y a rien à dire. Ce sont les deux artistes les plus innovants et les plus surprenants de ces années-là. Il est indéniable que Michael Jackson est un artiste prodigieux et Prince arrive avec une offre totalement différente, tout aussi prodigieuse. Et il y a un moment, oui, c'est le combat des plus gros vendeurs, des gens qui attirent l'attention le plus rapidement autour d'eux en l'espace de quelques années. Il y a forcément, donc, puisqu'ils sont mis en concurrence, il y a une volonté de les faire jouer tous les deux, ou en tout cas de les rapprocher sur un titre. Donc il y a l'histoire de Bad, qui est censée être le moment où où l'idée de germe de faire un titre ensemble, et bien évidemment ça ne se fera pas.
Alexita ?
Oui, non, moi je retourne souvent au berceau, c'est mon côté psychanalyste. Il faut voir que Michael Jackson, ils ont le même âge exactement, ils sont nés en 58 tous les deux, et c'est celui peut-être parmi tous qui donne le plus envie à Prince d'exister en tant qu'artiste. Puisque Michael Jackson à 14 ans est déjà la star qu'on connaît, et Prince à ce moment-là, lui, joue dans son basement. Et donc il admire Michael Jackson et il veut être Michael Jackson.
D'accord, donc il y a quand même une sorte de filiation qui s'est faite entre eux deux.
Bien sûr, une admiration énorme.
Et alors, il y a aussi cette idée, on n'en a pas parlé, mais cette aspiration à la foi aussi, qui lui est arrivée plutôt un peu plus sur le tard. Prince était témoin de Jéhovah.
Ah, Raphaël on Baki. Va sur ces sujets-là.
Ah bah oui, essayons de comprendre. Parce que quelqu'un qui commence en assumant vraiment une sexualité débridée sur scène.
Attention,
et qui
la
tout d'un
sexualité
coup...
a toujours été mêlée à la spiritualité. Il a toujours parlé à Dieu sur scène, il a toujours dédié ses albums à Dieu, et il y a toujours eu, c'était ça la force de Prince, c'était dans le même moment, parler à Dieu, se retourner et être cul nu. C'était vraiment ça.
Et c'est dans la grande tradition, rhythm and blues. Enfin, c'est le propre de la musique black, hein. C'est qu'on passe de l'église à l'incarnation de la chair. C'est
moi, je suis très très content de savoir qu'on peut communier avec lui en ayant
ce flambeau là.
J'adore ça.
Tout à fait.
Je suis preneur.
On l'est tous.
Ok, alors, on va faire une bonne partie.
Mais les témoins de Jéhovah, très rapidement, ça arrive à un moment compliqué de sa vie. C'est-à-dire, d'abord, il y a une rencontre importante avec le musicien Larry Graham, qui n'est pas n'importe qui est le bassiste de Sly Stone. Bon, on lui colle toujours l'étiquette de l'inventeur du slap, etc., qui est une technique de basse qui a fait, qui s'est propagée dans le funk notamment. Bon, fin de parenthèse, et qui lui est témoin témoins de Jéhovah. Et ça arrive quand même à un moment où Prince est dans une vie de couple un peu plus rangée que précédemment. Il est marié, ils attendent un enfant qui va être quasiment mort-né. Et donc ça tombe dans une période, faut pas oublier que, Alexis vient de nous le redire, Prince n'a pas de famille. Donc il y a un moment où il y a aussi quelque chose avec ce Larry Graham qui a une office de figure peut-être paternelle ou en tout cas important, voilà. Donc je parle au psychanalyste, mais on est d'accord. Et donc voilà, donc c'est pas qu'une histoire de religion, il y a aussi à un moment donné, il est seul en face de ce drame et voilà. Donc il a besoin de le gérer.
Et en plus de ça, il a composé pour énormément de personnes. Là, on entend Nothing Compared to You, qu'il a écrit pour Sinéad O'Connor.
Non, du tout. Alors là, vous allez vous faire des ennemis, vous allez avoir une masse de coups de fil.
Bah voilà, non, mais justement, très vous êtes là. Moi, c'est vous les spécialistes.
Donc, il a composé pour un groupe effectivement éphémère et assez peu connu qui s'appelle The Family. Donc, le titre était passé inaperçu, mais il a été vraiment composé pour un groupe qui a fait un excellent album, qui a la réputation d'être le groupe qui a fait un album, un single, un concert. Donc, en termes de degré éphémère, voilà. Et avec Sinéad O'Connor a ressorti ce titre à la surprise de tous et en a fait le succès qu'on connaît.
Et alors, on va pas tarder à écouter Manic Monday. Alors, il a écrit pour qui, que je dise pas de bêtises.
Il a écrit pour les Bangles, voilà. Pour Susanna Hoffman, qui était la jeune femme qu'il convoitait à l'époque. Et donc, il a donné ce titre-là qui a été réenregistré par les Bangles et vient de sortir effectivement la version originelle de Prince. Sur l'album Originals.
Voilà. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est bien fait, on est en phase. dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, on écoute Manic Monday. C'était Manic Monday de Prince et maintenant on joue.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Et aujourd'hui, on a Fabrice au téléphone. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes fan de Prince donc?
J'ai beaucoup écouté il y a très longtemps.
Alors profitez du temps d'antenne là. Est-ce que vous avez un album à conseiller, un titre en particulier?
Alors moi, ma chanson préférée, c'est When Doves Cry.
Ok, et c'est sur quel album?
C'est sur Purple Rain, c'est la première de la phase B de l'album. Et j'adore l'intro guitare qui est juste assez... L'intro guitare et l'arrivée de la batterie, je trouve ça juste magique.
Bon, et les invités ont le sourire en vous écoutant. Alors, je vais vous poser trois questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez le droit à un joker, voilà, c'est comme ça qu'on dit, pas joker, hein, qui vous donnera le droit d'être aidé par l'invité de votre choix.
Pas de souci.
C'est parti. Prince est connu pour avoir adopté plusieurs pseudonymes dans sa carrière. Quel pseudo n'a-t-il jamais emprunté? Réponse A, Camille. Réponse B, Christopher. Réponse C, Charles.
Je dirais Charles.
Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo. Tout le monde applaudit, bravo. Ouais, bon. Eh oui, il a en effet composé le titre Manic Monday pour les Bangles en 1985 sous le pseudonyme de Christopher, et Camille était le pseudonyme sous lequel il devait sortir un album éponyme en 86. Le projet est finalement avorté, remplacé par la sortie de Sign of the Time. Prince n'a jamais utilisé le nom Charles. Question suivante. Dans quelle ville Prince est-il né?
Minneapolis.
Bah oui, évidemment. Ah, c'était cadeau. Hein.
Oui, c'était cadeau.
Ah oui, mais on est comme ça. Hein. Dernière question. Quelle chanteuse chante en duo avec Prince sur ce titre?
Je vais avoir un joker.
Alors, je peux un indice? Ça n'est pas Jeanne Adèle.
Oui, bon, elle est trop jeune.
C'est une chanteuse qui a eu un petit succès aussi.
Mais j'ai pas un joker là.
Bah si, tout à fait, vous pouvez faire appel à un joker.
Alors je vais prendre Raphaël.
Alors, je repose la question. Quelle chanteuse chante en duo avec Prince sur ce titre?
Madonna.
Eh oui, c'est Madonna, extrait de Love Song, issu de l'album Like a Prayer en 1989, album de la chanteuse Madonna. Eh bien, bien Fabrice, vous avez gagné le livre de Raphaël Melki, Purple Femme, histoire d'une addiction à Prince. Alors, il applaudit, voilà.
C'est moi qui applaudis, voilà. J'applaudis.
Paru aux éditions Renaissance.
Ah oui, je m'applaudis.
Et oui, également celui d'Alexitain, Prince, le signe noir.
Qui s'applaudit aussi.
Une biographie parue aux éditions La Découverte, voilà. Merci à vous. Merci Fabrice.
Merci beaucoup.
Alors, Jeanne Adède, Alexitain et Raphaël Melki, merci.
Merci
d'avoir d'être venu ici pour évoquer Prince. On n'a pas pu tout dire. C'est trop court. Mmh. Mais si on a pu donner envie aux auditeurs de s'intéresser à ce grand chanteur, la mission est remplie. Comme toujours, les messages, c'est au 01 56 40 30 20 ou la page Facebook de l'émission ou sur Twitter, hashtag BlockbusterFI.
Je ne vis pas dans une prison. Je n'ai peur de rien. Je n'ai construit aucun mur autour de moi. Je suis comme tout le monde. J'ai besoin d'amour et d'eau fraîche.